9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. En décrétant la mobilisation, même partielle, en organisant des référendums d'autodétermination dans 4 régions d'Ukraine et en agitant une fois de plus la menace nucléaire, Vladimir Poutine joue gros, très gros, peut-être trop gros. On va voir ça dans un instant avec Carole Grimaud. Et la République islamique d'Iran en proie aux manifestations, elle aussi joue gros depuis la mort de cette jeune femme de 22 ans, dont le seul tort était d'avoir mal mis son voile. Sarah Saïdi était correspondante à Téhéran jusqu'en 2019. Elle va nous faire profiter de son expérience des mollahs, de la police des mœurs et de la jeunesse iranienne. Et l'on terminera l'émission avec Marianne Vic et son livre sur le vrai Yves Saint-Laurent, qui était son oncle et son parrain, un génie et un fou aussi.
Europe 1.
Carole Grimaud, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Vous enseignez la géopolitique de la Russie à l'Université de Montpellier. Vous avez fondé le think tank Center for Russia and Eastern Europe Research à Genève. Genève, où vous êtes membre de l'Observatoire géostratégique. En Russie, je le disais, l'heure est grave. La mobilisation partielle provoquée par le succès des contre-offensives ukrainiennes va forcer plusieurs centaines de milliers de Russes à prendre les armes et à aller sur le front. Comment la population, à votre avis, risque-t-elle de le prendre?
Eh bien, cette mobilisation a marqué l'entrée de la guerre dans les foyers russes. C'est effectivement un choc pour de nombreuses familles russes qui sont touchées aujourd'hui. On voit les compagnies aériennes qui sont les vols sont complets pour sortir de la Russie. Donc c'est une mobilisation, mais qui s'effectue un petit peu dans la précipitation et qui a l'air de ressembler plus à une sorte de traque qu'à une mobilisation. Donc on voit tous ces jeunes hommes, ces hommes qui partent de la Russie quand ils le peuvent. On voit des annonces pour éclaircir certains points, quelles catégories, quels hommes, quels réservistes sont désignés. Et puis le lendemain, on a des annonces contradictoires. Je veux parler des étudiants. En premier lieu, hier, les étudiants n'étaient pas concernés. Aujourd'hui, on apprend officiellement que les étudiants qui sont à distance sont mobilisables. Donc la population est totalement dans le flou, est totalement paniquée de ne pas comprendre, alors qu'on leur parlait d'opérations spéciales qui suivaient son cours, c'était les annonces jusqu'à présent du gouvernement. Et aujourd'hui, on envoie 300 000 personnes, 300 000 hommes sur le front. 300 000 hommes étant, là aussi, le chiffre est flou. Puisque dans le décret qui a été publié, dans ce décret, il n'y a pas de chiffre exact. Donc les 300 000 est un chiffre qui a été donné par le ministre de la Défense, Shoigu, qui a donné donc ce chiffre 300 000 avec des soupçons sur finalement la vérité et le chiffre exact de cette mobilisation qui pourrait être portée à 1 million.
De même, toujours dans la précipitation, il y a l'organisation de référendums d'autodétermination dans 4 régions ukrainiennes. S'ils sont gagnés, ils le seront vraisemblablement, hein, puisque dans cette ambiance, ça paraît difficile qu'ils ne le soient pas. Ça va soumettre des Ukrainiens à la même loi de mobilisation. Ils pourront être eux aussi incorporés dans l'armée russe et ils devront se battre contre leurs compatriotes de l'armée ukrainienne.
Les Ukrainiens qui se trouvent sur les territoires occupés et qui donc vont voter ces prochains jours pour ce référendum, eh bien seront soumis, oui, au droit à la loi russe, et donc la mobilisation s'appliquera certainement également sur ces territoires-là. Donc certains ont compris la menace, les rumeurs circulaient déjà depuis quelques jours et certains ont pu partir, quitter les régions pour retourner donc dans les territoires contrôlés par Kiev pour ne pas avoir à se battre contre des Ukrainiens, étant Ukrainiens eux-mêmes. Cela semble totalement absurde.
C'est quand même un gros risque que prend le Kremlin, hein, celui d'ouvrir au fond un nouveau front dans sa propre population, hein, comme les Américains au moment de la guerre du Vietnam. En 1970, la garde nationale avait dû tirer sur des étudiants à l'université du Kent. Est-ce que c'est ce qui attend Poutine, à votre avis ?
C'est un gros risque. C'est un gros risque politique à l'intérieur du pays. Donc on en politique intérieure par rapport à sa population dont il rompt le contrat, c'est-à-dire le contrat de stabilité, de calme, qui l'a mené au pouvoir finalement en 2000. Ce contrat-là est en train de se déchirer et la population se retrouve finalement prise au piège de la stratégie du Kremlin, de cette stratégie impérialiste et dont ils ne comprennent peu de choses, peu impliqués dans les affaires politiques. Donc ce contrat-là se détériore et effectivement Vladimir Poutine joue gros. On peut se demander dans quel état d'esprit ces mobilisés vont arriver sur le terrain. Ces jeunes ou ces hommes un petit peu plus âgés qui vont se retrouver sur le terrain sans avoir véritablement de connaissances militaires, sans avoir participé à aucun combat, on peut se demander quel va être cet état d'esprit, quelles vont être leurs réactions. Alors, il est vrai que les lois se sont durcies, qu'ils risquent jusqu'à 15 ans de prison pour désertion, mais ne vont-ils pas prendre le risque finalement de déserter le front s'ils n'ont pas pu s'échapper de la Russie? Pourront-ils le faire une fois en Ukraine?
Et on peut se demander pour quel bénéfice, effectivement, puisque que ce soit l'équipement ou la formation de plusieurs centaines de milliers de civils pour en faire des combattants efficaces, ça va prendre du temps. Est-ce qu'il a le temps?
Alors, la formation militaire supplémentaire qui serait assurée avant de les envoyer serait de 2 semaines. Environ 2 semaines, donc pour les former au combat, pour les envoyer ensuite. La précipitation de cette mobilisation, les hommes qui partent déjà, les postes de contrôle qui sont placés aux frontières avec d'autres pays au sud de la Fédération de Russie, le Kazakhstan, la Géorgie, on voit la précipitation, on voit le durcissement et cette précipitation-là qui peut indiquer qu'effectivement il est le but principal est de les acheminer le plus rapidement possible, certainement pour correspondre à la divulgation des résultats des référendums et à au process d'incorporation à la Fédération de Russie. Donc tout cela va se jouer très rapidement, d'ici une quinzaine, 3 semaines, peut-être un peu plus. Les premiers mobilisés seront affectés sur le terrain.
Carole Grimaud, on fait une pause, on se retrouve juste après.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec Carole Grimaud qui enseigne la géopolitique de la Russie à l'université de Montpellier. On l'a dit, en Russie, l'heure est grave. La guerre prend un nouveau tournant parce qu'une fois les 4 régions ukrainiennes annexées par référendum, l'invasion de l'Ukraine, l'opération spéciale, change de nature. Cela devient officiellement une guerre défensive, donc patriotique. Les Russes sont censés défendre le sol de leur pays contre les envahisseurs ukrainiens, soutenu par ce que Poutine appelle l'Occident collectif.
Oui, c'est exactement cela, sauf que la guerre défensive est déjà présentée de cette façon-là depuis quelques mois. C'est-à-dire que assez rapidement après la défaite de Kiev et cette opération spéciale qui aurait dû se dérouler beaucoup plus vite, eh bien le discours a quelque peu changé et on a présenté donc une guerre finalement contre l'Occident collectif, contre l'OTAN et les pays européens qui arme l'Ukraine. C'est devenu de plus en plus courant au fil du temps, cette vision en fait du conflit qui n'est finalement qui est une l'Ukraine ne serait que le théâtre d'opération d'un conflit plus grand qui amènerait donc la Russie à se défendre contre l'Occident collectif qui a décidé de la détruire. Donc là, avec le référendum et l'annexion de ces territoires, effectivement, juridiquement du côté russe, cela serait une guerre défensive à proprement parler. C'est simplement le cadre juridique qui là vient confirmer finalement la rhétorique du Kremlin.
Mais aussi le cadre stratégique, parce que si c'est pour protéger la souveraineté, la sécurité, l'intégrité territoriale de la Russie, l'utilisation des armes nucléaires peut se justifier.
Exactement. Les armes nucléaires peuvent se justifier, c'est-à-dire que le gouvernement russe s'autoriserait justement à défendre son territoire tel qu'il le reconnaît contre l'agresseur ukrainien et avec tous les moyens possibles. C'est bien ce qu'a appuyé Vladimir Poutine lors de sa conférence. Donc tous les moyens possibles, bien entendu, impliquent l'arme nucléaire. Donc c'est une menace adressée à l'Ukraine. C'est une menace aussi adressée à l'OTAN. Pour ne pas interférer dans cette guerre, ligne rouge qui avait déjà été mentionnée dès le début de l'opération, et qui pour l'instant n'a pas été franchi. Il n'y a pas de soldats de l'OTAN en Ukraine et cette ligne rouge est renouvelée, répétée encore aujourd'hui.
Mais à chaque fois que Vladimir Poutine sous-entend qu'il pourrait utiliser l'arme nucléaire, on commence à en avoir l'habitude. Est-ce qu'il peut vraiment l'utiliser? Son entourage peut-il s'y opposer? La menace de représailles peut-elle l'en dissuader? Peut-il en faire usage en Ukraine sans que les Américains répliquent?
Alors c'est bien compliqué. L'arme nucléaire étant une arme de dissuasion, il peut utiliser cela comme arme dissuasive. C'est ce qu'il a fait depuis le début. C'est ce qu'il fait depuis le début. En brandissant cette menace, les Américains, là aussi, ne riposteraient-ils par une frappe nucléaire? J'en doute. Maintenant, est-ce que les militaires qui entourent Vladimir Poutine, donc les militaires qui conseillent les politiques qui les entourent, seraient-ils prêts finalement à obéir à cet ordre-là? Je me demande si à ce moment-là, si ça ne serait pas le tournant définitif, décisif pour Vladimir Poutine. Si jamais il a l'intention d'appuyer sur le bouton des armes nucléaires, sera-t-il suivi par les membres de son conseil d'administration ou son conseil de sécurité qui seraient prêts à le suivre dans cette fuite en avant?
Au fond, la question qui se pose, c'est quel prix Poutine est-il prêt à payer pour gagner, mais aussi ceux qui l'entourent et le peuple russe?
Oui, exactement. C'est à ce moment-là, jusqu'où est-il prêt et jusqu'où ceux qui l'entourent, la population, est-il prête à le soutenir et à approuver ses actions. Donc cette question nucléaire, elle divise beaucoup les Russes, elle divise certainement les militaires, mais les militaires, nous les entendons que très peu. Bien évidemment, ils ne s'expriment pas, mais parmi ces militaires, il y a de nombreux généraux et hauts gradés qui n'approuvent pas cette guerre. Qui obéissent, bien évidemment, ce sont des militaires, mais qui n'approuvent pas. Il arrive un moment, peut-être, où les actions et les décisions politiques seront absolument inacceptables pour les militaires. C'est en tout cas ce que l'on peut envisager.
Mais on a un peu la pression quand même qu'il brûle ses derniers vaisseaux, Vladimir Poutine, parce que les sanctions économiques vont finir par faire leur effet. Or, il se met à dos une partie de sa population. Il va tenter, j'imagine, d'empêcher les Russes de quitter le pays. Il risque de décréter la loi martiale. Il va faire des veuves et des orphelins. Il va voir ses soutiens, comme la Chine et l'Inde, probablement s'éloigner. Et tout ça pour se retrouver face à l'OTAN.
Il est sur une corde raide parce que, évidemment, vous l'avez dit, il est pressé de toutes parts et il joue là certainement une de ses dernières cartes. Il joue là une de ses dernières cartes en espérant probablement que l'annexion de ces territoires qui passeraient au sein de la Fédération de Russie inciterait les Ukrainiens finalement à négocier. Que la menace nucléaire ou les armes nucléaires qu'ils pourraient déployer sur ces territoires convaincraient les forces ukrainiennes finalement de conclure ou un cessez-le-feu ou en tout cas de commencer à entamer des négociations. Je pense qu'il joue là une des dernières cartes parce qu'il en reste peu finalement avec l'arme nucléaire qui est bien sûr la solution la pire. Donc c'est effectivement il est acculé et c'est ce qu'il fait peur aussi parce que ce président qui est déjà en porte-à-faux dans son pays acculé serait-il prêt à aller jusqu'au bout c'est-à-dire le nucléaire ou bien attend-il finalement les résultats de ce référendum sur le moral des troupes ukrainiennes. Bon, quant à elle, on sait bien que les forces ukrainiennes vont continuer le combat. Il est trop tôt pour savoir exactement de quel côté finalement Vladimir Poutine va tomber, parce que forcément il y aura à un moment, il y aura une chute, il y aura un moment où il devra revenir sur ses décisions, ou bien en interne, comme je vous le disais, une résistance parmi son équipe et tout ce qui l'entoure et tout ce qui le conseille.
Merci Carole Grimaud. On fait une pause, on se retrouve dans un instant avec Sarah Saïdi. On va parler de l'Iran.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Sarah Saïdi.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes journaliste, vous avez été correspondante en Iran de 2016 à 2019. Vous en avez rapporté un livre très intéressant d'ailleurs, intitulé « Portrait de Téhéran ». C'est paru chez Ikari Éditions. Il y a déjà eu des manifestations en Iran, mais y a-t-il eu déjà des manifestations de cette ampleur dans des villes aussi nombreuses que celles auxquelles on assiste aujourd'hui ?
En Iran, en fait, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de manifestations depuis 40 ans, depuis l'instauration de la République islamique. Donc il y a eu, on se souvient récemment de celle de 2019, qui a été provoquée par la montée des prix du carburant. Il y a également eu celle de 2009, et c'était celle qui était vraiment, pour le coup, très très d'une ampleur assez exceptionnelle, quand il y a eu la réélection de l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Donc les manifestations d'aujourd'hui sont d'ampleur assez importante, de ce qu'on en sait, parce qu'il faut savoir aussi que la coupure Internet ne permet pas d'avoir une idée très très précise du nombre de manifestants. Effectivement, quand il y a des manifestations en Iran, ça se propage assez rapidement dans plusieurs villes. Donc Téhéran, forcément, puisque c'est la capitale, mais également le Kurdistan, qui en général, ces dernières années, fait partie des premières villes à être touchées par les émeutes, parce que c'est la ville la plus pauvre de la région la plus pauvre de l'Iran. Donc j'ai envie de vous dire que l'ampleur est assez importante, mais on ne peut pas, à cause de cette habitude, de cette fâcheuse habitude maintenant du régime de couper Internet, de vraiment se rendre compte d'à quel point les manifestants sont nombreux ou pas.
On sait qu'il y a beaucoup d'étudiantes, il y a des jeunes femmes qui manifestent sans leur foulard, qu'elles ont brûlé, parfois même en public, hein, sous les applaudissements. On sait que ça touche plusieurs couches de la population, plusieurs âges aussi. Il y aurait des parents qui manifesteraient également. On sait aussi que la violence est déjà montée d'un cran. Il y a plusieurs morts. Les réseaux sociaux qui ont été fermés, j'ai envie de vous demander, ils ne sont pas surveillés comme en Chine, les réseaux sociaux en Iran? Il peut s'y dire des choses ?
Alors, en règle générale, en Iran, vous avez pas mal de sites qui sont interdits, donc qui sont accessibles par la plupart des jeunes, parce que les jeunes sont quand même très, très futés. Donc, il y a l'utilisation de VPN qui permet, donc de réseaux privés finalement, qui permettent aux jeunes d'accéder à ces sites qui sont bloqués par le gouvernement, donc, notamment Twitter, par exemple. Par contre, aujourd'hui, quand ils coupent Internet, ils coupent l'Internet international. En fait, l'Iran, depuis 2009, justement, depuis les manifestations suite à la réélection de Mahmoud Ahmadinejad, a cherché à rejoindre un petit peu le modèle chinois et à avoir deux Internet, un Internet un peu national qui pourrait continuer à fonctionner et qui serait beaucoup moins puissant, et un Internet international qui, donc, pourrait être coupé. Donc, on coupe le robinet pour que les gens ne puissent pas avoir accès à l'extérieur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens sont dans un huis clos, et du coup, effectivement, la répression peut être plus importante. Tout est permis. Et c'est ce dont les Iraniens ont très, très peur. Depuis quelques jours, on voit beaucoup, juste avant la coupure, justement, des messages qui filtrent et qui disent « Soyez notre voix ». Et qui partagent également des VPN plus forts pour pouvoir contourner justement cette censure d'Internet. Par rapport à la question que vous avez posée juste avant, par rapport aux différentes générations qui se rejoignent, il faut savoir que cette manifestation, ces émeutes-là, ces manifestations-là, ont un point très très particulier, très inédit, c'est que le catalyseur, contrairement aux autres manifestations des années passées qui étaient le pouvoir d'achat plutôt des raisons économiques, cette année et cette fois-ci, c'est vraiment les femmes qui sont à la tête de ces manifestations. Et c'est la colère de ce groupe de population qui aujourd'hui est éduqué et ultra connecté et qui par ailleurs est très combatif depuis des années, depuis 40 ans. C'est ce groupe de population, donc les femmes, qui mènent ces émeutes.
Les femmes
et ça, c'est vraiment inédit.
Les femmes qui, en Iran, hein, comme dans la plupart des pays du monde d'ailleurs, sont plus diplômées que les hommes aujourd'hui. Et c'est la mort d'une de ces jeunes femmes, Mahsa Amini, âgée de 22 ans, qui a été arrêtée le 13 septembre par la police des mœurs. Alors, c'est quoi cette brigade, la sinistre réputation ? Elle est de plus en plus présente, de plus en plus agressive depuis l'élection de Raisi à la présidence, j'ai l'impression.
Alors, en fait, il faut savoir qu'en Iran, donc, on a souvent une alternance de conservateurs et de réformateurs. Effectivement, quand les conservateurs sont au pouvoir, la police des mœurs a tendance à être un peu plus agressive parce que, et beaucoup plus présente dans les rues, parce que le gouvernement conservateur va fermer un petit peu les vannes. Donc, va encore plus serrer la population, ce qui est un peu difficile d'ailleurs ces dernières années parce que, bon, la population est déjà à bout de souffle à cause de l'inflation, à cause des raisons économiques. Donc, c'est très difficile aujourd'hui pour le régime de jouer encore avec... ils ont une très, très faible marge de manœuvre parce que la population risque à tout moment de sortir, finalement, parce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles sortir, en fait. Et par rapport à cette police des mœurs, alors il faut, moi j'étais pendant 3 ans en Iran, donc je suis une femme aussi. Donc, pour le coup, je peux vraiment vous dire que c'est quelque chose d'assez angoissant, même si moi, en tant que journaliste, j'avais beaucoup moins de risques que toutes ces femmes, parce que j'avais une carte du gouvernement qui me permettait, enfin, de passer un peu à travers les mailles du filet. Mais les femmes iraniennes marchent dans les rues avec quand même cette peur de se retrouver face à cette camionnette blanche et verte qui pourrait les arrêter pour n'importe quelle raison. Parce que la spécificité de cette police des mœurs, c'est qu'en fait, finalement, on n'a pas vraiment les codes exacts. Alors oui, on doit être couverte de la tête aux pieds. A priori, on ne doit pas avoir, on ne doit pas voir les chevilles, on ne doit pas voir les cheveux dépassés. Mais ça va bien au-delà de ça, en vérité. Ça va au-delà d'un simple voile, au-delà d'un simple... d'une simple manière de s'habiller, c'est finalement une manière de dominer la population, de dominer la société, de dominer les femmes en leur disant n'oubliez pas le message révolutionnaire, n'oubliez pas l'idéologie, n'oubliez pas où vous habitez. Et finalement, ce qui est un petit peu tacitement dit par ces personnes, par cette police des mœurs, c'est finalement les femmes doivent être couvertes complètement. Donc mettre un tchador noir et finalement rester à la maison. C'est ça le message en sous-main, finalement.
On fait une pause, Sarah Saïdi, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Sarah Saïdi, qui est journaliste, qui a été correspondante en Iran de 2016 à 2019. Sarah Saïdi, qui réagit évidemment avec nous aux manifestations assez inédites par certains côtés qui se déroulent actuellement en Iran. Alors, dans des séries comme le Bureau des légendes ou Téhéran, qui est une série israélienne, on nous montre une jeunesse iranienne très libre sexuellement, qui se drogue, qui fait des fêtes clandestine, qui écoute de l'électro. Cette jeunesse iranienne, vous l'avez côtoyée, vous la connaissez. Est-ce qu'elle ressemble à ce qu'on voit dans les séries ?
Alors, en Iran, comme dans tous les pays, vous avez des jeunes qui vont abuser, qui vont faire un peu trop la fête, qui vont être un petit peu plus dévergondés que d'autres. Mais finalement, en Iran, la majorité des jeunes en Iran, comme dans tous les pays occidentaux, finalement, on les mêmes aspirations, celles de vivre une vie, de rencontrer des amis, d'écouter de la musique, de sortir, d'aller boire un verre avec des collègues après le travail. Et finalement, c'est ça qui existe en Iran aussi. Mais la différence entre les pays occidentaux et l'Iran, c'est que tout se fait dans la désobéissance civile. Et ça, je le dis souvent. C'est vraiment cette image que je répète. C'est en Iran, c'est comme si le régime c'était un papa et une maman hyper stricts, des parents hyper stricts, qui empêchaient leurs enfants, donc toute la société, qui imposent des règles très strictes à tous leurs enfants. Et du coup, les enfants, que ce soit la jeunesse en particulier, parce que du coup, la jeunesse est éduquée, elle a, enfin, 70% de la population iranienne à moins de 35 ans n'a jamais vu autre chose que la République islamique, mais par contre est éduquée et hyper connectée, donc voit ce qui se passe à l'extérieur. Souvent, ils ont voyagé aussi. Donc pour eux, c'est beaucoup plus difficile encore. Et donc, ils ont envie de faire comme les autres. Ils ont envie de vivre une vie finalement libre. Et du coup, cette désobéissance civile qui est finalement quotidienne, elle se fait un peu plus forte chez eux. Donc oui, les jeunes sortent, oui, les jeunes se retrouvent, les femmes fument, les soirées ont lieu dans les huis clos des maisons. Effectivement, c'est mais pas forcément dans l'abus, pas forcément dans l'abus. La majorité sont sages.
La République islamique d'Iran est une dictature politique et religieuse. C'est donc forcément difficile à évaluer, mais il y a tout de même une partie de la population qui la soutient, qui en est complice. Alors, dans quelle proportion, d'abord, à votre avis, et pourquoi la soutient-elle ? Est-ce que c'est par ferveur religieuse, par nationalisme, par haine de l'Occident ?
On estime environ à 10 à 15% aujourd'hui la population qui soutient le régime. Donc c'est vraiment une minorité, mais c'est une minorité qui a le monopole du pouvoir finalement. Pourquoi ils soutiennent le régime ? Eh ben, j'ai envie de vous dire parce qu'ils continuent de croire en messages idéologiques révolutionnaires qui datent d'il y a 40 ans. Ce sont des gens qui estiment que la République islamique a été instaurée pour protéger l'Iran de l'ingérence étrangère et surtout américaine. Et ils continuent de croire en ce message-là. Et finalement, oui, c'est aussi, j'ai envie de dire, un mélange pour certaines familles, un mélange de tradition et de religion qui fait que c'est très difficile pour eux de s'éloigner de cette idéologie.
Et quand on manifeste aujourd'hui qu'on est blessé, qu'on est frappé, est-ce qu'on peut se faire soigner dans les hôpitaux, par exemple ? S'il n'y a que 15% de la population qui soutient le régime, tout le reste devrait être complice ou en tout cas avoir des sentiments amicaux vis-à-vis des victimes de la répression. Or, je me demande, est-ce que c'est le cas ?
Non, effectivement, la population iranienne est très, très, très soudée. Donc même si vous allez certainement croiser des gens qui vont pas participer aux manifestations, qui sont même peut-être contre les manifestations, qui se disent que c'est pas une bonne idée de sortir et de manifester, et surtout pas par la violence, et que ça changera rien, et que finalement à part donner des morts et être réprimé, la situation changera pas. Il y a énormément de gens comme ça aussi, mais ces gens-là vont pas mettre des bâtons dans les roues et vont pas tourner le dos, en fait, à leur propre population. Ça, c'est impossible en Iran. Le lien entre les Iraniens est quand même très, très fort. Donc oui, les gens qui se font, qui sont blessés peuvent aller aux hôpitaux et peuvent être soignés. La question, par contre, c'est est-ce que quand ils se font blesser, est-ce que ils ont le temps de partir à l'hôpital ? Est-ce que on les interpelle pas dans le même temps ? Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a aussi des descentes dans les immeubles, c'est qu'ils essayent de terrifier les gens dans les rues aussi, en les pointant avec des armes. Ils usent de gaz lacrymogène également. Donc, je pense que la situation est quand même très, très tendue. Et tout est fait finalement pour interpeller le plus de monde. Et quand ils les interpellent, on ne sait pas du tout où ces gens-là sont emmenés. Donc c'est là la question. C'est est-ce qu'ils ont le temps, en fait, finalement, de partir à l'hôpital pour se faire soigner ?
Merci, Sarah Saïdi, pour toutes ces explications. Je renvoie à votre livre « Portrait de Téhéran » qui était paru chez Ikari Éditions. On fait une pause. On se retrouve juste après. On va parler d'Yves Saint-Laurent.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Marianne Vic, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Le Prince de Babylone, un livre consacré à Yves Saint-Laurent, qui était votre oncle et votre parrain. Alors pourquoi les éditions du Seuil ont-elles écrit roman sur la couverture ? Parce que tout est vrai, comme dans les romans de Dostoïevski ou de Flaubert ?
Voilà, exactement. Tout, c'est une fiction basée sur des faits réels, voilà. Comme on ne dit pas.
Mais quel but vous poursuivez, vous ? Personnellement, est-ce que vous voulez rendre justice à Yves Saint-Laurent en le débarrassant des mythes qui l'entourent, en relevant sa face noire aussi, les souffrances qu'il lui a fallu endurer pour dessiner ses créations ? Vous voulez qu'on imprime la réalité au lieu d'imprimer la légende ?
Alors, je ne me sens pas du tout justicière. Franchement, je pense qu'il vaut plus que le mythe. C'est valable pour lui, mais pour d'autres personnes aussi célèbres qui valent plus que ça, parce que finalement, c'est archi-réducteur, un mythe, forcément.
C'est moins émouvant, c'est moins touchant.
C'est une simplification, et on passe à côté de tout ce qui est humain, trop humain.
C'est fou ce qu'il a souffert, hein, Saint-Laurent, dans sa famille, d'abord, avec une mère qui ne faisait pas attention à lui, à l'école ensuite, où en tant qu'homosexuel, il était agressé par ses camarades, chez Christian Dior ensuite, où il n'est pas du tout l'assistant préféré, le successeur désigné, et quand il devient le successeur quand même, à la mort de Christian Dior, il n'était pas libre, hein, on s'immisçait dans son travail, on lui imposait des limites, et l'on a fini même par s'en débarrasser. Et même une fois à la tête de sa propre maison de couture, on a l'impression, en vous lisant, que ses créations le font souffrir. Et quand il ne peut plus créer, il va souffrir. Et quand il va fermer sa maison, il va souffrir aussi.
Là, je pense qu'on s'aperçoit que... Enfin, aujourd'hui, on vit dans un monde où tous les jeunes gens ont envie d'être riches et célèbres. Voilà, c'est la célébrité, le quart d'heure warholien avant l'heure. Il a obtenu ce qu'il désirait, néanmoins il est passé complètement à côté du bonheur. Il a réalisé ses rêves, mais d'où viennent ses rêves ? Est-ce qu'il suffit de réaliser ses rêves pour être épanoui ? Il n'a jamais été épanoui malheureusement, et c'était, comme vous venez de le rappeler, une succession
de tragédies.
De tragédies. Sa vie est une tragédie, ouais. Voilà.
C'est une tragédie. En plus, il y a beaucoup de masochisme. Il est maniaco-dépressif. Il passe une bonne partie de son temps, de sa vie en tout cas, à l'hôpital.
Oui, c'est-à-dire que l'élément, la folie d'un homme. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas cette folie qui l'a mené à la créativité. Je pense que c'est l'inverse. C'est dans les moments où il était dans une certaine sobriété, le mot est à la mode, mais pour d'autres raisons, c'est ces instants de clarté qui lui ont permis justement de créer ce qu'il est peut-être allé puiser dans ses abysses intimes. Mais il fallait quand même ce moment de sobriété intellectuelle.
Mais vous, Marianne, vous êtes quasiment la seule de la famille qui l'admet près de lui, à part sa mère. C'est un gros dossier, sa mère, hein, c'est autre chose. Oui. Vous en parlez longuement. Mais vous,
c'est souvent un gros dossier, la mère.
Il paraît. Vous vous retrouvez régulièrement à déjeuner avec votre oncle, qui est votre parrain. Il est très tendre avec vous, très attentionné. Mais en même temps, ces déjeuners, vous ne les faites pas durer dans le livre. On ne sait pas, il était rassurant, il était inquiétant pour une petite fille et ensuite pour une adolescente.
Alors, pour être franche, Frédéric, ils étaient tous extrêmement inquiétants pour une petite fille. En fait, c'était un peu les misfits. Les enfants ont cette capacité de s'adapter. Et je me suis adaptée, hein, à cet entourage. Comme on dit, je n'ai pas bougé une oreille. J'avais deux éléments qui m'ont structurée, l'école d'un côté et la religion, puisque je suis d'une génération où on allait encore au catéchisme. Et disons que je me suis raccrochée à ça. Et il y avait ces personnages familiaux dont Yves était la figure paternelle, pour diverses raisons. En fait, c'était vraiment l'élément, ma figure paternelle. Et grâce au couple qu'il formait avec Pierre Berger, on va dire que cette figure paternelle, en tant que couple, arrivait à me donner un certain équilibre. Voilà. Mais certes, c'est assez iconoclaste. Comme...
Oui, parce que la famille, c'est quand même quelque chose. Hein. Et dans la vie de Saint-Laurent et dans la vôtre, et dans ce livre, puisque c'est une tragédie avant tout familiale, avec des secrets de famille, des mensonges, des drames. Et pour vous, tout ça, au fond, irrigue toute la suite.
Oui, mais j'espère être la preuve vivante qu'on peut s'en sortir sans être complètement tendu, un peu simplement.
En tout cas, ça permet d'écrire de bons livres.
Merci.
C'était pas du tout un fan de littérature, comme on le dit d'ailleurs. Vous racontez que sur sa table de chevet, il y avait la Bible, Proust et une biographie de Zinedine Zidane.
Ah oui, Zidane. C'est-à-dire que là aussi, celui qui aimait les livres, et c'était absolument sincère, c'est Pierre Berger. Et Yves était fasciné par Proust, puisque à partir de son adolescence, c'est quelque chose, il faut savoir que quand il était adolescent, personne ne lisait Proust, c'est pas comme aujourd'hui, en fait, où il n'y a pas de livre de poche, etc. Donc il a eu accès, et ça l'a vraiment soulagé dans la douleur d'être homosexuel, de se savoir homosexuel. C'est une grande douleur pour lui, et de voir cet écrivain, qui était quand même déjà extrêmement reconnu, parler aussi librement, et ouvertement de l'homosexualité.
C'est une douleur pour lui, il faut dire, parce qu'on lui en a infligé
les
conséquences. Dans l'Algérie française, de l'époque, c'était pas très bien porté.
La vie coloniale des années 50 n'était pas tendre pour l'homosexualité, pour bien d'autres choses aussi. Mais n'est-ce pas toujours le cas, quand même, dans certains endroits ?
Marianne Vic, vous dites qu'au fond, Saint-Laurent n'a pas du tout contribué à libérer les femmes, comme il le prétendait. Il était génial, certes, mais il a enfermé les femmes dans ses fantasmes à lui. Des femmes fatales, destinées à plaire aux hommes. Au fond, c'était les hommes qui étaient la cible, d'après vous, des créations d'Yves Saint-Laurent.
Oui, là, on est dans le... Je n'ai pas cité dans le livre, mais c'est très René Girard, le désir mimétique. J'espère que ça parlera aux auditeurs, mais c'est vrai que Yves... de par ses souffrances, celles qui lui ont été infligées, celles qu'il s'est infligées, était pas très tendre envers ses congénères, et notamment les femmes, hein, puisqu'il y avait ce rapport très toxique avec sa propre mère. Et il était incapable d'aimer vraiment une femme. En fait, il parlait, il était entouré de certaines des femmes qu'il côtoyait, étaient célèbres, mais devant elles, il était tout sucre, tout miel, mais en fait, dans leur dos, c'était terrible. Il sortait des insanités que je ne peux même pas répéter.
Vous l'appelez l'homme qui aimait si mal les femmes.
Oui, bien sûr, parce que c'est... Je me plais à croire qu'il aurait aimé apprécier les femmes.
Mais il y a chez lui l'impossibilité d'aimer, d'après ce que vous racontez.
Oui, oui, c'est transmise par sa mère. Et je pense que toutes ces personnes ont des circonstances atténuantes et j'espère que c'est assez clair dans ce que j'écris.
Marianne Vic, vous, sa nièce, sa filleule, le seul membre de la famille qu'il acceptait au fond, vous n'êtes pas allée à son enterrement en 2008 où il y avait tout Paris, mais vous étiez à la commémoration de sa mort, du 10e anniversaire de sa mort en 2018 à l'église Saint-Roch où il n'y avait presque personne.
Voilà, parce que justement, ce n'était pas du tout
un événement mondain. Vous avez même lu un texte. Voilà. Alors, j'allais vous dire pourquoi.
Parce que c'était plus, on n'était plus dans le registre de la mondanité. En 2008, c'était vraiment l'équivalent d'un défilé de mode. C'était, il fallait placer les gens, etc. Il y avait un sitting. Je ne voudrais pas être très désagréable, mais je pense que pour se recueillir, c'était pas l'endroit où il fallait être.
Et la commémoration, 10 ans plus tard ?
Alors, 10 ans plus tard, en 2018, alors il n'y avait plus personne, pour une bonne raison, c'est qu'entre-temps, Pierre Berger...
Était mort.
Et il faut savoir que à la fin de sa vie, c'est surtout Pierre que les gens craignaient. Donc ils obéissaient en fait dans un certain milieu à Pierre. Et une fois qu'il était mort, c'était plus la peine de se déplacer pour aller rendre un hommage à Yves Saint-Laurent. Ces gens-là s'en foutaient royalement. Les fidèles étaient là.
Oui, ils étaient moins nombreux, visiblement.
Le noyau de fidèles.
Un sacré livre, en tout cas, Le Prince de Babylone. C'est signé Marianne Vic et ça vient de paraître aux éditions du Seuil, avec écrit roman dessus, mais il ne faut pas le croire.
Merci.
Europe 1.